Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous. Merci Françoise pour cette invitation et pour l'organisation de ce cours. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la distribution de masse des étoiles. Et un des messages que je voudrais essayer de vous communiquer aujourd'hui, c'est que ça fait partie de ces quantités dont on ne réalise pas forcément l'importance. Mais en fait, ça fait partie de ces quantités qui structurent très profondément l'univers et qui font qu'il est tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Sachant que chaque, comme Françoise vous l'a enseigné, chaque masse d'étoiles ou chaque type d'étoile, hein, finalement, joue un certain rôle dans notre univers et contribue à faire ce qu'il est, et sans doute le fait qu'on soit là aujourd'hui pour en parler. Alors, sans doute, dans ce cours, il n'est pas besoin de rappeler ça, mais en fait, je pense quand même que ce n'est pas totalement inutile. On a l'habitude d'appréhender notre univers sous forme d'échelle, hein, donc les grandes échelles, l'univers dans son ensemble, les amas de galaxies, etc. Et puis, les petites échelles, pour les astrophysiciens, évidemment, les planètes, qui sont les grandes échelles qui sont populaires, pour les médias, qui sont appréhendées, etc. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces deux échelles, elles sont intimement connectées l'une à l'autre. Et en fait, cette connexion, elle se fait via la formation de l'étoile, le cycle de la matière interstellaire. Donc si je prends les grandes étapes, donc disons le Big Bang avec un univers complètement uniforme, etc., des galaxies qui se forment, au sein desquelles on va trouver de la matière interstellaire. Hein, les galaxies sont remplies d'un gaz, des nuages moléculaires géants. Donc un nuage moléculaire géant de compétition, ça fait 100 000 soleils, à peu près 100 000 masses solaires, au sein desquelles on va trouver des entités plus denses qu'on peut déjà appeler des bébés étoiles, qui sont des régions qui correspondent à une implosion gravitationnelle. La gravité commence à prendre le dessus. Par effondrement gravitationnel des étoiles et autour de ces étoiles, des disques d'accrétion. J'en dirai sans doute quelques mots au cours de l'exposé. Et enfin, dans les disques d'accrétion, ce qui est important pour nous, évidemment, des planètes. Et donc, dans cet ensemble, toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment la physique baryonique, c'est-à-dire la physique de notre matière, hein, par opposition à la matière noire. Et toute cette partie, en fait, elle est très profondément une conséquence de cette fonction initiale de masse, de la distribution de masse des étoiles. Donc je vais organiser mon exposé en trois aspects. J'irai assez vite sur le premier, parce que vous avez eu des cours sur la question. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Et j'explorerai un petit peu la diversité. Après, une deuxième partie que vous aussi vous devez connaître sans doute, en partie, mais je pense que ça fait partie de ce message que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, qui est de bien réaliser en quoi les étoiles interviennent dans des grandes étapes de l'univers. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait avec ces étoiles et quelles sont les conséquences, une fois plus, sur l'univers. Et enfin, la troisième partie, qui sera peut-être le cœur dur de l'exposé, qui sera comment elles se forment et quelle est l'origine de cette fonction initiale de masse, de cette distribution de masse, des grosses, des petites, etc. Bien. Donc, pour simplifier les choses, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Vous le savez sans doute, mais donc, en substance, c'est une boule de gaz, d'hydrogène, qui subit la gravité, mais néanmoins, elle ne s'effondre pas sur elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression, hors thermique, éventuellement de radiation, éventuellement un peu de dégénérescence quantique, comme vous l'a enseigné Françoise, mais qui va s'opposer à cette gravité, qui va faire qu'on a un équilibre, au sein duquel vous avez allumé donc, des réactions nucléaires, et donc au bord de l'étoile, lorsque l'opacité est suffisamment faible, cette lumière s'échappe et fait que les étoiles émettent de la lumière, essentiellement parce qu'elles sont chaudes. Donc, quelles sont les plus petites étoiles? Donc là, selon cette définition que je viens rapidement de donner, hein, une masse d'hydrogène au sein de laquelle on trouve des, enfin, s'allume des réactions nucléaires. La limite pour, en termes de masse pour avoir des réactions nucléaires, c'est à peu près 0,08 masse solaire, 0,1 masse solaire, disons. On peut descendre un petit peu plus bas. On ne va plus brûler de l'hydrogène, on va brûler du deutérium, on appelle ça une naine brune, et on descend comme ça jusqu'à 0,013, à peu près 10-2 masse solaire. En dessous de ça, donc il n'y a plus de réaction nucléaire, on a néanmoins des objets que j'évoquerai vers la fin, qu'on a détectés récemment, qu'on appelle les free floating planets, qui sont quand même jusqu'à 10 masses de Jupiter encore, et donc sans doute avec une connexion qui reste à bien définir entre ce qui serait la queue de distribution des étoiles et puis les planètes, et avec une, sans doute un lien entre les deux qui n'est pas encore très très clair aujourd'hui. Les plus grosses. Le record absolu, c'est sans doute 300 masses solaires. Je dis sans doute parce que c'est compliqué de savoir si on voit vraiment une étoile ou une binaire, etc. Mais quelques centaines de masses solaires. Il est représenté, il y a en fait plusieurs étoiles massives ici, hein, dans le complexe de la Tarentule. Alors, c'est une question importante, d'ailleurs, ça. Est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qui détermine la masse de ces plus grosses étoiles ? Est-ce qu'il pourrait y en avoir de plus grosses ? En fait, la question n'est toujours pas très bien comprise. C'est sans doute quelque chose de statistique. C'est-à-dire que, comme on va le voir par la suite, plus la masse des étoiles augmente, plus elles sont rares, et donc au bout d'un moment, on n'en trouve plus. Bon. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de paramètre vraiment fondamental qui ferait qu'on ne pourrait pas y avoir une étoile encore plus grosse. Et pour la petite histoire, en fait, les théoriciens travaillent aujourd'hui sur des étoiles encore beaucoup plus massives, jusqu'à 10 000 masses solaires, peut-être même plus, qui auraient pu donner naissance à des trous noirs supermassifs. Je dis au conditionnel, hein, parce que tout ça, c'est des théories qui sont en cours d'élaboration. C'est peut-être tout faux, on ne sait pas. Mais voilà, c'est des choses qui se discutent en ce moment. La possibilité d'avoir des étoiles extrêmement massives, primordiales. À confirmer ou à infirmer, je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie des idées qui sont discutées. Alors, question très importante, pourquoi les étoiles brillent ? Donc, j'ai esquissé très rapidement dans mon introduction la raison. Donc en fait, c'est basé sur quelques mécanismes de physique assez simples. Donc tout d'abord, ce que sans doute la plupart d'entre vous connaissent, le rayonnement du corps noir, essentiellement quand on prend un four et qu'on le calfeutre, etc., on garde par un tout petit trou ce qui est en train de se passer, eh bien on voit un spectre universel où la densité d'énergie est proportionnelle à la température à la puissance 4. C'est le même spectre que celui qu'on observe dans l'univers, le rayonnement à 3 Kelvin, hein, c'est un très très beau rayonnement de corps noir, ce qui pose par ailleurs des beaux problèmes de cosmologie. Donc voilà, c'est un spectre universel. Ensuite, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est le transport de la lumière. Donc on a un phénomène de diffusion assez classique, avec un coefficient de diffusion qui se trouve être proportionnel à la vitesse de la lumière divisée par une opacité qui va décrire le détail de la propagation des photons dans un environnement donné, et puis le gradient essentiellement d'énergie radiative. Donc ce qui est important ici, c'est que ce spectre étant proportionnel au gradient de l'énergie radiative, on a un T puissance 4 qui intervient ici. Et donc par ailleurs, l'équilibre mécanique, donc gravité égale pression, nous dit eh bien, qu'essentiellement la température, qui comme vous le savez intervient dans la pression, va être proportionnelle à la masse divisée par le rayon, simplement pour satisfaire cet équilibre. Bon. De ce fait, vous voyez que vous reliez directement la température à la masse par cet équilibre. Et la luminosité, donc la quantité de lumière émise en unité de temps donnée, c'est donc la surface multipliée par le flux radiatif, c'est-à-dire la quantité de photons qui atteignent le bord. Et donc, comme on le voit ici, ce flux radiatif, il est même proportionnel à l'énergie radiative qui est en T4, et T4 proportionnel à M. Et donc, on en déduit que la luminosité des étoiles est proportionnelle. Alors, ce n'est pas M4, parce qu'en fait, dans la diffusion ici, se cache une masse, donc c'est 3. Mais essentiellement, le message important, c'est que la luminosité d'une étoile est proportionnelle au cube de la masse. Et alors ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est extrêmement important. Parce que, imaginez, je vous ai parlé d'étoiles de 300 masses solaires. Prenons 100 masses solaires pour se simplifier la vie. Comparons ça à notre Soleil. 100 au cube, 1 million. Une étoile de 100 masses solaires, elle va rayonner comme 1 million de soleils. C'est-à-dire que sur Terre, vous prenez un flux 1 million de fois supérieur. Sachant que sur Terre, eh bien, typiquement, la température, comme vous le savez, sur Terre, est due au Soleil. Donc ça veut dire que vous auriez une conséquence extrêmement importante sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Les étoiles, les grosses étoiles, brillent énormément, et cela aura une influence sur une galaxie via le chauffage du gaz et via d'autres phénomènes qu'on va voir par la suite. Alors, l'autre point essentiel, l'autre conséquence finalement de cette physique relativement simple encore, c'est que les étoiles vont vivre des temps assez différents. Donc, on a ce rayonnement proportionnel au cube de la masse, et par ailleurs, la source interne d'une étoile, puisqu'elle perd continuellement d'énergie du fait de son rayonnement, eh bien, ce sont les réactions nucléaires internes. Le fait qu'une étoile convertit de l'hydrogène en éléments lourds, donc d'abord hélium, et puis après carbone, oxygène, enfin tout, l'ensemble des éléments que l'on connaît, à part deutérium et beryllium, lithium, qui sont formés dans le Big Bang, tous les autres sont formés exclusivement, quasiment exclusivement, au sein des étoiles. Donc, ce réservoir d'énergie, eh bien, c'est juste la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, donc c'est la conversion d'une énergie de masse en énergie thermique essentiellement. Thermique avant qu'elle soit émise en lumière. Et donc de ce fait, les plus grosses étoiles ont un plus gros réservoir. Elles sont plus grosses. Donc on pourrait se dire, elles vont vivre plus longtemps. Ben oui, mais non, parce qu'elles rayonnent beaucoup plus. Elles rayonnent comme le cube de la masse. Et donc j'ai un réservoir M divisé par une luminosité M au cube. Et donc, in fine, je trouve un temps qui est proportionnel à la masse à la puissance moins 2. Donc ça encore, conséquence importante. Si je prends une étoile, donc vous le savez, le Soleil, qui vit à peu près 10 milliards d'années, enfin vivra à peu près 10 milliards d'années, si je prends une étoile de 10 masses solaires, eh bien je dois diviser ce temps de vie par un facteur 100. D'accord ? Donc j'arrive à quelque chose comme 100 millions. Si je prends une étoile de 20 masses solaires ou 30 masses solaires, je commence à arriver à des temps qui deviennent courts. Et les étoiles les plus massives vivent sans doute 4 millions d'années. C'est le chiffre, disons que les physiciens stellaires, leur meilleur chiffre, ça peut, avec une certaine barre d'erreur, disons, mais c'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc les plus grosses étoiles, ça ne vit que 4 millions d'années. 4 millions d'années, en fait, c'est pas beaucoup. Hein. Si vous pensez à l'émergence de l'homme, hein, c'est à peu près quelques millions d'années aussi. Hein. Donc voilà, les plus grosses étoiles, nos lointains ancêtres, disons, les ont vues naître, si je puis m'exprimer ainsi, et disparaître. D'accord ? Inversement, si vous prenez une étoile. Une étoile plus petite que le Soleil, 0,7 masse solaire, 0,5 masse solaire, eh bien vous allez trouver des âges qui sont supérieurs à l'âge de l'univers. Autrement dit, il existe des fossiles aujourd'hui, hein, les plus petites étoiles, les premières à s'être formées, sont toujours là, en fait. Et donc, en les détectant et puis en observant leur composition, en étudiant leur composition, on peut apprendre, avoir des informations sur eh bien, les conditions de formation des premières étoiles, en tout cas de celles de faible masse. Voilà. Alors, ces rappels étant faits, comme je le disais, des étoiles, pourquoi faire ? Donc, la première chose que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer et que Françoise a amplement développé durant ce cours, mais qui est tellement fondamentale qu'il est toujours utile de le rappeler, c'est que les étoiles synthétisent les éléments lourds. Tous les éléments lourds, sauf, comme je le disais, quelques traces, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, sont formés dans les étoiles. Donc vous connaissez tous la fameuse assertion d'Hubert-Reeves, hein, nous sommes de la poussière d'étoiles, ce n'est pas du tout une exagération. Toute l'émergence de la vie, toute la complexité, c'est parce qu'on a eu ce creuset comment on l'appelait, interstellaire ou galactique, qui va vous transformer une matière pristine, essentiellement en fait d'hydrogène et d'hélium, et elle va créer, donc via ces cycles de réactions nucléaires, elle va engendrer des atomes beaucoup plus complexes, dont aujourd'hui le vivant notamment est fait. Donc j'ai sauté tout de suite au vivant. En fait, avant cela, peut-être, il est important aussi de mentionner que les processus thermodynamiques, c'est-à-dire la capacité que le gaz a à se refroidir, le gaz interstellaire, sa capacité à se refroidir, donc à développer des températures beaucoup plus faibles, est également une conséquence directe de la présence de ce qu'on appelle, nous, astrophysique, des éléments lourds, voire de façon totalement abusive, des métaux. On parle de métallicité, même si ce n'est pas ça qui domine. Donc, en particulier, le carbone, l'oxygène, l'azote sont des éléments qui permettent au système, au gaz, de se refroidir, de perdre son énergie. Et ça, en fait, c'est extrêmement fondamental, parce que la façon dont un système évolue et se structure est intimement liée à sa capacité à dissiper l'énergie. Vous savez tous que notre univers est essentiellement est dominé par de la matière noire, hein, qui est, je ne sais plus, 5 fois à peu près la matière baryonique. Et la matière noire, dans cette pièce, je la cherche. Enfin, mes collègues. Ils la cherchent ils développent des trésors d'ingénierie et d'intelligence pour essayer de la détecter, et ils n'y arrivent pas. Et pourtant, la matière noire, elle est 5 fois plus abondante dans l'univers, pense-t-on, que la matière baryonique. Alors, du coup, je pose la question, si elle est abondante, où est-ce qu'elle est? Pourquoi je ne la trouve pas là? Est-ce que quelqu'un a la réponse? La raison pour laquelle je ne la vois pas, c'est parce que ici, il n'y en a pas, ou très très peu. Et pourquoi il n'y en a pas? Eh bien parce que la matière noire, elle est noire, ce qui veut dire qu'elle ne rayonne pas, elle ne perd pas son énergie, la matière noire. Et donc elle reste bloquée tout là-haut, elle est autour de la galaxie, mais elle n'arrive pas à se contracter. Contrairement à nous, les baryons, qui sommes des gens dispendieux, et qui rayonnons notre énergie de façon très très peu économe. Et donc, ce faisant, on arrive à se contracter, et les baryons forment des structures parce qu'ils perdent leur énergie. Et la raison pour laquelle ils perdent l'énergie, c'est pour ça. Parce qu'il y a des structures microscopiques d'énergie variable, c'est-à-dire que vous avez des transitions atomiques, moléculaires, avec des niveaux d'énergie faibles qui font que vous pouvez descendre en température et toujours trouver des transitions pour émettre des photons. D'accord. Donc, et cette capacité-là, elle est extrêmement importante. Et donc évidemment, même si j'ai sauté parce qu'on a envie d'aller tout de suite, hein, évidemment, toutes ces molécules complexes, elles sont également le fruit de ces atomes. Voilà. Donc c'est fondamental. Il y a un deuxième rôle, évidemment, qui est celui d'abriter des planètes, c'est-à-dire que notre Soleil offre, depuis 5 milliards d'années, il évolue un petit peu, etc. Mais enfin, voilà, ce sont des conditions qui sont quand même relativement tranquilles, avec une stabilité, et donc il offre à la Terre, et sans doute à d'autres planètes, des conditions de température idéales, si on est dans la bonne direction. Donc, comme vous le savez, hein, il existe un grand nombre de planètes dans la galaxie, plus de 100 milliards, qui non seulement sont hébergés, mais qui se sont formés grâce à cette matière synthétisée par les étoiles, et puis qui sont hébergés, si je puis dire, autour d'étoiles peu massives, qui vivent très longtemps, qui rayonnent pas trop fort quand même, mais pas trop quand même. D'accord. Donc tout ça, c'est des équilibres, et le fait qu'il existe des étoiles aux capacités très différentes fait que on va trouver, selon les cas, si je puis dire, le bon note qui nous permettra de vivre le temps qu'il faut et l'énergie dont on a besoin. Voilà. Et donc, de façon également fondamentale, hein, les étoiles, hein, se forment dans des disques circumstellaires. Donc, à nouveau, le fait de former des étoiles autour de ces disques vient de, pardon, des planètes autour de ces disques vient notamment de la capacité, si je puis m'exprimer ainsi, des étoiles à accueillir des disques d'accrétion autour d'elles, à les chauffer à la bonne température, etc. Donc même la formation des planètes, elle est intrinsèquement liée à la nature de l'étoile hôte. Et après l'évolution également, bien entendu. Bien. Alors, un autre point fondamental des étoiles, et cette fois-ci, donc là j'étais sur les planètes, etc., j'étais plutôt sur les étoiles de type solaire. Un autre point fondamental, c'est, et là maintenant je passe aux étoiles les plus massives, et à nouveau cette capacité luminosité proportionnelle à m cube, donc une grosse, une luminosité extrême d'étoiles massives, cette importance des étoiles, le fait qu'elles soient visibles. Les étoiles très massives, elles sont visibles de loin, et ça me permet notamment de dériver, de regarder des galaxies très très loin, éventuellement de calibrer des distances, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc ça a permis notamment d'établir le début de la loi de Hubble via les CFEI, de calibrer l'univers, etc. Et puis de trouver également la matière noire, notamment en observant, de confirmer la matière noire, puisqu'elle a été trouvée autrement, mais en tout cas de confirmer la présence de matière noire dans les galaxies en observant des courbes de rotation de certaines étoiles qui sont, dans quelque sorte, le puits gravitationnel. Bon. OK. Alors, par ailleurs, elles ont enfin une grande influence sur les galaxies, et à nouveau, je parle des étoiles massives cette fois-ci. Ici, on voit un reste de supernova. Au moment de l'explosion d'une étoile, d'une étoile plus massive que 8 masses solaires, une grande quantité d'énergie est injectée dans le milieu, et ceci entretient, pense-t-on, la turbulence dans une galaxie. Alors, je vais m'étendre un tout petit peu sur la turbulence, parce que j'en aurai besoin par la suite. Donc la turbulence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le gaz est agité. Donc l'image la plus simple, si vous observez un torrent, juste un torrent de montagne, vous voyez de l'eau qui bouge dans tous les sens, ça a l'air très compliqué, et c'est très compliqué, mais il y a néanmoins une certaine régularité. Une régularité caractéristique de la turbulence. Ici, je vous montre une simulation numérique d'un gaz turbulent fortement compressible, qui vous montre donc toutes ces fluctuations, là vous voyez, ce sont des fluctuations de densité qui rappellent un petit peu à l'œil l'image d'un nuage atmosphérique ou simplement d'un torrent. Et on peut quantifier ces fluctuations en regardant par exemple la dispersion moyenne en fonction de la vitesse de deux points en fonction de leur taille. Donc ici vous avez la taille. La distance, donc ici en années-lumière, ce sont des nuages interstellaires, et ici vous avez la dispersion de vitesse, et vous voyez ici ce qu'on appelle une loi de puissance. Plus on est loin, plus le nuage est grand, plus les dispersions de vitesse à l'intérieur de ce nuage sont élevées, avec un certain indice, c'est proportionnel essentiellement à la racine carrée, plus ou moins de la taille. Ça, c'est caractéristique de la turbulence. Donc, et le point essentiel, c'est que cette turbulence, elle doit être entretenue. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de touiller, si vous prenez votre café, vous le touillez très très fort, d'accord, vous générez de la turbulence. Assez rapidement, si vous arrêtez de touiller, ça se calme, et puis en quelques secondes peut-être, il ne se passe plus rien. Ce serait un peu pareil avec la galaxie. Vous n'êtes pas en permanence en train de touiller la galaxie, en train d'injecter de l'énergie, ben assez rapidement, vous n'avez plus rien. Et donc les étoiles massives, cette fois-ci, jouent un rôle essentiel dans ces mouvements galactiques à grande échelle. Ici, je vous montre une simulation numérique où vous avez un petit bout de galaxie qui est vu de face. Donc ici vous avez le disque galactique et vous voyez les mouvements que vous pouvez voir ici en fait, qui sont induits, vous voyez, des mouvements en fait divergents qui correspondent à l'explosion de supernovas, hein, donc des étoiles massives, qui viennent injecter de l'énergie continuellement dans ce système. Et donc ce taux d'injection d'énergie, il est directement relié à nouveau au spectre de masse des étoiles, parce qu'il est proportionnel au nombre d'étoiles massives du système. Et donc si vous formiez exclusivement des étoiles massives, au contraire pas du tout, vous auriez deux situations très différentes. Dans un cas, vous n'auriez quasiment pas d'énergie injectée parce qu'il n'y aurait pas d'étoiles massives pour exploser un supernova. Et dans l'autre cas, si vous formiez que des étoiles massives, vous auriez une énergie encore beaucoup plus élevée. Donc vous voyez ici un paramètre assez fondamental qui va venir contrôler la dynamique globale du système. Alors je voulais juste dire quelques mots sur les simulations numériques. C'est un point un peu méthodologique, mais je pense que c'est important. Surtout parce que dans la deuxième partie de mon exposé, ça sera plus des résultats justement de simulation numérique qui reste l'outil de prédilection, hein, pour étudier la formation des étoiles. Donc une simulation numérique, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un algorithme, hein, d'accord ? Donc une succession d'opérations faites sur ordinateur, hein, qui comprend plusieurs étapes. Donc, essentiellement, il s'agit de résoudre en fait, hein, les équations de la physique dont on pense qu'elles décrivent ces systèmes. Donc la première chose, hein, c'est il faut discrétiser le système, puisqu'on a un nombre fini de points, hein, bien entendu, qu'on peut mettre dans un ordinateur. Donc ça peut être des grilles, des particules, il y a plein de sortes de codes. Et l'échantillonnage, typiquement, il va évoluer au cours du temps. Ensuite, il faut définir une méthode pour résoudre de manière approchée les équations du système. Approcher, c'est important. Donc c'est important qu'une simulation soit bien résolue, c'est-à-dire que les échelles pertinentes de votre problème soient bien décrites et vous ayez suffisamment de points de maillage. Donc typiquement ça veut dire qu'en général on va avoir un grand nombre d'éléments de calcul, plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards, et donc les calculs sont faits du coup sur des ordinateurs massivement parallèles. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire d'avoir paralysé le calcul. Autrement dit, le calcul n'est pas fait sur un seul processeur, il est fait sur 1000, 10 000, 100 000 processeurs qui chacun fait des petits bouts de calcul, ils s'échangent, ils se parlent, ils communiquent, d'accord ? Et donc c'est un système où, enfin, le calcul lui-même, vous avez cette ferme de calculateurs, hein, qui échangent en permanence des données, qui en font un petit bout, qui l'envoient aux copains ou aux copines, etc. D'accord ? Et par ailleurs, en dépit de ces relativement gros calculs, en fait ça reste trop petit, hein, la puissance de calcul des ordinateurs n'est pas suffisante pour faire ce qu'il faudrait idéalement, et donc on est obligé en plus d'avoir recours à des modèles dits sous-maille. En particulier, dans la simulation que je vous ai montrée à l'instant, les étoiles ne sont... On ne va pas jusqu'à décrire l'étoile elle-même. Il faut avoir en tête, hein, qu'une étoile, ça fait... allez, une seconde lumière, deux secondes lumière, et une galaxie, c'est plutôt 100 000 années-lumière. Hein. Donc faites le rapport. Vous avez, je ne sais plus, 10 ou 20 ordres de grandeur, 10, 15, je crois, entre le rayon d'une galaxie et le rayon d'une étoile. Donc c'est un nombre considérable et personne n'est capable de simuler ça simultanément sur un ordinateur. Donc on est obligé de combiner, disons, des approches où on va essayer de décrire le mieux possible compte tenu de la puissance des ordinateurs, avec des modèles sous-maille dans lesquels on va mettre une sorte de description plus ou moins empirique des objets qu'on n'est pas capable de décrire. Donc tout ça pour dire, c'est un point méthodologique, mais je pense qu'il est important, c'est qu'une succession numérique, une simulation numérique, c'est une longue suite d'approximations. D'accord ? En aucun cas, une simulation numérique, mais enfin c'est vrai, en fait, ce que je dis de tous les calculs de la physique, hein, de toute façon, ne saurait être exacte. Une simulation numérique, c'est toujours approché, et donc il est important de conserver toujours un œil critique et de se dire, ok, qu'est-ce qui, dans mon calcul, est suffisamment précis pour être pertinent. Donc toujours garder un œil critique là-dessus. Bon. Voilà. Alors, donc, ceci m'amène à la dernière partie de mon exposé, dans laquelle je vais aborder de façon plus précise l'origine physique de cette distribution de masse. Et donc, la première question, évidemment, pour répondre à ça, c'est comment l'étoile se forme. Alors, l'étoile se forme, je l'ai évoqué déjà au début de mon exposé, de façon un petit peu qualitative, par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Donc, toujours un peu important quand on aborde un problème physique, de l'aborder de la façon la plus simple qui soit. Et puis après, on complique les choses et on finit par des grosses simulations avec des milliards de points, etc. Mais d'abord, on commence par des choses simples. G, voilà, ça c'est simple. Donc G, il a une valeur, mais surtout il a des dimensions. D'accord, c'est des kilogrammes moins 1 mètre carré seconde moins 2. Alors ça, ça a l'air de rien, mais il y a un truc très intéressant là-dedans. Kilogramme moins 1 mètre cube, ça c'est l'inverse d'une densité. Donc ça veut dire que si je multiplie G par une densité, j'obtiens un temps à la puissance moins 2. Autrement dit, si maintenant j'en prends l'inverse de la racine carrée, j'obtiens un temps. Et ce temps, il s'appelle le temps de chute libre. Il y a des petits paramètres de vent, si on veut, mais essentiellement c'est ça, le temps de chute libre. Donc ça, ça vous dit, j'ai mon bon nuage là qui est comme ça, il a une densité, en combien de temps il s'effondre ? 1 sur racine de 0. Ça va même nous dire beaucoup plus que ça. On commence par ça. Voilà, donc... Et donc ceci, je vais pouvoir le comparer à d'autres temps pertinents pour le problème. L'autre temps pertinent pour le problème, ça va être typiquement qu'est-ce qui s'oppose à la gravité. Ce qui s'oppose à la gravité, alors il y a plusieurs choses en fait, la turbulence en fait partie. Pour commencer, le plus simple, la pression thermique. La pression thermique, donc à nouveau j'ai mon nuage de densité rho, j'ai la gravité, et je dois avoir la pression qui s'oppose, un peu comme dans le Soleil, mais avec une différence fondamentale que je soulignerai dans un instant. Donc, je compare deux temps. Le fameux temps de chute libre, 1 sur racine de ρg, et la pression, quel est son temps caractéristique à elle ? Eh bien, en fait, c'est le temps de traversée du son. C'est-à-dire que si j'ai mon nuage, j'ai mon onde sonore qui se balade, si l'onde sonore traverse le nuage en un temps qui est plus court que le temps de chute libre, eh bien ça veut dire qu'elle va avoir le temps de rétablir les fluctuations de pression avant que le temps que la gravité ait fait son travail. C'est ce qui se passe dans le Soleil, typiquement. Donc le Soleil ne s'effondre pas, notamment parce que la pression thermique le maintient, s'oppose. Il y a une autre subtilité au niveau de l'indice adiabatique que je décris dans un instant. Pour l'instant, gardons cet argument. Et donc, j'ai un critère en fait assez simple, qui est si le temps de chute libre est plus court que le temps de traverser les ondes sonores, eh bien, avant même que l'onde sonore ait eu le temps de parcourir, boum, le nuage sera effondré et la gravité aura gagné. Et inversement, dans l'autre cas. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne en fait un petit critère, c'est que le nuage... Pour être instable, ou pour être stable, selon ce que vous voulez, un nuage suffisamment grand sera instable. Et un nuage petit sera stable. Au passage, l'air dans la pièce ici, il subit la gravité. Hein, il subit la gravité, cette molécule-là subit la gravité de cette molécule-là. Simplement, la taille de l'air dans la pièce est tellement petite par rapport à cette traversée du son qu'il est stable. Sinon, ça s'effondrerait. Bien. Donc, je compare mes deux temps et je peux de ce fait définir un rayon qu'on appelle typiquement la longueur de Jeans. Essentiellement, si le rayon du nuage est supérieur à cette longueur, la vitesse du son divisée par racine de ρg, le temps de free fall, eh bien le nuage sera stable. Enfin, pardon, instable si c'est supérieur. Et ceci me permet de définir une masse minimum qui porte le nom de monsieur Jeans, son inventeur, qui en gros, eh bien, c'est la masse de la sphère qui a pour rayon le rayon de Jeans. Donc rho r cube. Et là, ce qui est intéressant, donc, c'est de regarder la dépendance de cette masse dans la densité. Donc, Vous voyez que le rayon de Jeans, j'ai dit, c'est inversement proportionnel à ρ à la puissance moins 1,5. Au cube, puisque j'ai un rayon au cube. Donc ça me fait ρ à la puissance moins 3,5. Et je multiplie par la densité, ici, puisque c'est la densité, la masse de la sphère, ρ r cube, et j'obtiens ρ moins 1,5. Alors ça, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je vois que la masse de Jeans diminue avec la densité. Donc si la densité augmente, la masse de Jeans diminue. Donc ce qui veut dire que si vous avez un nuage de gaz qui est en train de s'effondrer, eh bien, au fur et à mesure qu'il s'effondre, sa densité augmente. Et donc, comme sa densité augmente, ce que me dit cette petite relation, c'est que la masse de Jeans diminue. Autrement dit, le nuage va avoir tendance à se fragmenter. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à former des étoiles de plus en plus petites. Donc vous voyez ici la notion là, qui est en train d'émerger doucement, ce spectre de masse, cette distribution en masse, elle est en fait très simplement enracinée quasiment dans un chiffre ou dans une dimension qui est celle-ci, G. Le simple fait que G ici a ces dimensions suggère tout de suite que vous allez avoir une distribution qui va dépendre de la densité. Et cette densité, on voit bien qu'elle va dépendre de l'histoire du milieu. Puisque je vous ai déjà montré une simulation numérique d'un petit bout de galaxie, vous avez vu le gaz qui fluctuait sous l'effet notamment de la turbulence et de la gravité. Et donc ces fluctuations, elles vont générer des conditions de densité différentes qui vont être elles-mêmes autant de masses de Jeans différentes, donc de conditions d'instabilité pour former des futures étoiles, juste du fait de ces dimensions. Donc, question importante, évidemment, si on laisse un petit peu la théorie de côté, comment détermine-t-on dans la réalité, hein, dans les observations, comment détermine-t-on cette fonction initiale de masse? Donc c'est tout un art, hein. Il y a des experts de la question. La grande difficulté, c'est que sauf pour quelques cas, en général, la masse d'une étoile n'est pas directement accessible. Quand vous observez une étoile, vous voyez des photons qui sortent. Alors, il y a quelques cas où c'est pas vrai. Si vous avez une binaire, par exemple, via les lois de Kepler, vous pouvez déterminer notamment la masse. Enfin, pour l'essentiel, on n'a pas accès. Ce qu'on mesure, c'est la luminosité. Exactement comme dans l'exposé de Françoise avec les naines blanches, hein, vous avez une luminosité, vous devez avoir des modèles pour relier à ça. Donc ici, vous avez un exemple, hein, vous avez la masse en fonction, pardon, la luminosité ici, la magnitude, en fonction de la masse. D'accord, donc ces courbes théoriques ici, ce sont des modèles, hein, donc vous devez modéliser l'ensemble de l'étoile, hein, et puis la quantité de photons qui en sort. Il se trouve que c'est assez bien, pas parfaitement, mais c'est assez bien caractérisé quand même. Donc ces modèles vont vous permettre de transcrire la luminosité en masse. Alors ensuite, il y a une deuxième difficulté qui est liée à cet âge des étoiles qui dépend, je vous le rappelle, de la masse à la puissance moins 2, donc, ce qui est une dépendance forte, hein, puisque une étoile de 10 masses solaires va vivre 100 millions d'années, les plus grosses étoiles vont vivre 4 millions d'années, les plus petites sont toujours là. Donc vous avez une disparité d'âge énorme, ce qui fait que quand vous observez un système, alors sauf s'il est très jeune, ce qui peut arriver, mais la plupart du temps, pour la plupart des systèmes, eh bien, les grandes étoiles, les grosses étoiles ont déjà disparu en fait, elles sont mortes. Et puis les différentes étoiles sont à des stages différents. Donc vous devez, ce que vous observez typiquement, c'est ce qu'on appelle la present day mass function, la fonction de masse à l'instant présent. Il faut corriger, hein, de l'âge des étoiles. Et enfin, il y a une autre correction importante à apporter, qui vient des binaires, et du fait que certaines ne seront pas résolues, et que donc vous voyez en fait un mixte. Vous voyez, quand vous regardez la luminosité d'un objet qui en fait est binaire, c'est en fait la somme de deux étoiles. Donc voilà, vous devez tenir compte de ça aussi. Donc c'est tout un art. Donc ce qui est trouvé là il s'agit d'un diagramme, je vais vous montrer des données dans un instant, hein, d'une vision d'un schéma, mais qui récapitule assez bien. Donc ici vous avez l'axe, ici, vous avez la masse stellaire, et ici, vous avez leur nombre. Donc, sur les masses élevées, hein, une masse solaire, c'est par ici, vous avez quelque chose, alors, selon les modèles, il y a quand même des barres d'erreur, mais donc, ce qui est le plus populaire, c'est une loi de puissance avec un indice ici de 1.3 à peu près, qu'on appelle l'indice de Salpeter, puisque c'est Edwin Salpeter le premier qui, en 1955, a obtenu cette valeur. Et plus récemment, ça date des années 2000, en fait, notamment Gilles Chabrier, qui est en poste à Lyon, hein, qui a obtenu ici en fait un coude, ici, avec ce pic qui est situé à peu près à 0,3 masse solaire. Et ensuite, pour les étoiles encore plus petites, étoiles slash naines brunes slash free floating planets, vous voyez en fait quelque chose qui décroît, comme ceci. Donc c'est ça le spectre de masse des étoiles. Et si vous regardez sur ce schéma, hein, vous allez à peu près ici de 10-3 jusqu'à 100, vous avez en fait une masse qui varie sur 50 de grandeur. 50 de grandeur, c'est assez considérable. Donc ça veut dire qu'en fait, en termes de conditions physico-chimiques, mais également de distribution spatiale, en fait, vous explorez des conditions extrêmement larges. Donc la physique qui est à l'origine de cette distribution de masse, en fait, elle est très diverse. Parce que vous allez d'objets très petits, très denses, à des objets beaucoup plus diffus, et avec tous ces processus de rétroaction stellaire, etc., de refroidissement, qui sont à l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui, en fait, est une signature de la physique, on va dire, du gaz interstellaire, mais une signature au sens fort, c'est-à-dire qu'elle comporte, elle est la conséquence d'une grande variété de phénomènes, en fait. Il y a deux choses essentielles sur lequel je vais un peu plus insister. Donc la première, et qui sont un petit peu contradictoires en fait. Donc on a une loi de puissance, comme je le signalais d'abord, qui va typiquement de 1 à alors 10 à 100 masses solaires. Bon, les statistiques ne sont pas toujours parfaites, hein, mais enfin, au moins 1, voire 2 ordres de grandeur. Donc ça, une loi de puissance, c'est typiquement un processus sans échelle caractéristique. Donc, je vais donner quelques exemples par la suite. Mais donc typiquement, quand vous prenez des phénomènes tels que la turbulence, la gravité, on trouve des petits échelles caractéristiques dans les coins, mais voilà, vous avez des régimes où, sur des plages importantes, vous avez des sortes de ce qu'on appelle des régimes autosimilaires, qui sont, disons, des régimes où vous allez trouver quelque chose de continu qui varie en loi de puissance en général. Et puis, au contraire, vous avez un pic. D'accord ? Et un pic, ça signe, on a envie de dire, une masse caractéristique. Ça signe un quelque chose de fort, un processus qui est capable d'impliquer sa marque sur ce spectre et de changer complètement. Disons peut-être d'arrêter cette sorte de loi de puissance, ce processus sans échelle, au contraire d'imprimer une marque. Donc vous avez deux grandes caractéristiques à essayer de comprendre. Donc ici je vous montre des données. À gauche ce sont des jeunes amas stellaires et à droite ce sont au contraire des amas globulaires ou des clusters un peu plus évolués. Donc vous voyez que ce qui est frappant ici, c'est qu'ils ont, alors c'est pas exactement la même chose à chaque fois, mais enfin c'est quand même très semblable. D'accord ? Donc quand vous passez d'un cluster à l'autre, ou quand vous regardez des amas globulaires, vous retrouvez quand même des distributions de masse qui ressemblent furieusement les unes aux autres. Donc ça, c'est connu sous un problème, enfin je sais pas si c'est, problème c'est le mot, mais enfin, sur une caractéristique qui est cette universalité de l'IMF avec des guillemets. Parce que maintenant, disons, les observations se sont affinées, mais on sait qu'on voit maintenant des observations, des variations d'un environnement à l'autre, mais qui restent quand même, on va dire, assez faibles par rapport à ce qu'elles pourraient être. D'accord ? Quand vous faites de la physique, ben vous dites, le produit, de ce qui a lieu dans un environnement donné, il dépend de ce qu'il y a dans cet environnement. Et si je change la densité par deux ordres de grandeur, ou la température par un ordre de grandeur, ou je ne sais quoi, je m'attends quand même à avoir des variations proportionnelles peut-être pas, mais enfin, ouais, des variations conséquentes. Et là, ces environnements, ils peuvent être très différents les uns des autres. Et enfin, il y a un truc qui varie un petit peu, mais enfin, bon, pas tant que ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un des défis. Pourquoi si peu de variabilité, compte tenu, disons, des grandes variabilités qu'on voit dans les systèmes astrophysiques? Bien. Donc ça, ce sont un peu les dernières, la dernière compilation des données. Alors, mise sous une forme, donc on exprime, ici, c'est la loi de puissance. D'accord ? Et donc, on exprime le coefficient, en fait, hein, de la loi de puissance en fonction de la masse de l'échantillon sur lequel l'IMF est mesuré, la fonction de masse est mesurée. Donc, vous voyez, en dessous d'une masse solaire, ici, on est autour de la valeur de Salpeter, mais vous voyez quand même avec des fluctuations importantes. Hein, vous avez pas mal de systèmes quand même ici qui sont assez significativement moins raides, avec des pentes plutôt de moins 0,8 hein, plutôt que moins 1,3. Certains systèmes avec même un peu plus, au contraire. Et puis vous avez un changement qui s'opère vers une masse solaire. Et là encore, vous avez une certaine disparité. Hein, vous voyez qu'ici, quand même, l'indice va changer quand même pas mal. Mais bon, voilà, globalement, la tendance est là. Hein, vous avez un pic, donc zéro, c'est le moment où c'est le pic, puisque on change de signe ici pour ce coefficient. En gros, en dessous là, de 0,3, vous êtes plutôt positif, et au-dessus, vous êtes plutôt négatif. Voilà, donc c'est à peu près où on en est, hein, en termes de mesure de cet IMF. Donc, une certaine universalité des grandes tendances, même s'il y a quand même la place pour des variations importantes. Bien. Alors, donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus à nouveau dans la physique. Donc, je vais essayer de donner les grandes idées physiques et qui sont obtenues, et notamment grâce aux simulations numériques. Donc, ici, je vous montre une simulation numérique. Vous avez une sphère de gaz qui initialement est turbulente et donc autogravitante. Donc, dans cette simulation numérique, vous avez des processus donc de turbulence. Vous voyez des filaments se former. Ça, c'est sous l'effet de la turbulence supersonique. Et puis, vous voyez la densité. Ce qui est représenté ici, c'est la densité du gaz. Vous voyez que le gaz s'effondre sur lui-même. Et les points rouges, ce sont des étoiles, et plein de guillemets. En fait, c'est des modèles sous-mailles, c'est important de le réaliser. Ce sont des modèles sous-mailles, c'est-à-dire, essentiellement, quand on n'est plus capable de résoudre la simulation et que suffisamment de masse s'est accumulée, eh bien, on sait que si on avait les capacités de résoudre cette simulation, ce qu'on peut faire de temps en temps ou sur des petits bouts, des zooms, on sait qu'on aura un effondrement qui se produirait et on serait capable d'aller jusqu'à l'étoile. Une fois de plus, on le fait de temps en temps. Hein. Donc ce qu'on fait, on remplace, en fait, à cet endroit-là, on met une particule, donc un algorithme, finalement, qui va être représenté essentiellement par une masse ponctuelle, c'est-à-dire que la masse va croître en fonction du temps, puisqu'elle va accréter le gaz qui est autour, et elle va interagir avec le reste de la grille via la gravité. D'accord ? Donc c'est essentiellement une étoile, mais vue de très loin. Comme si on voyait notre soleil, on ne rentre pas dedans évidemment, hein, et le soleil, eh bien, on sent la gravité, et puis s'il y a de la masse qui tombe, elle va tomber dedans. Donc c'est essentiellement ça. Je vais remontrer la simulation. Donc, vous voyez, dans un premier temps, donc, vous avez formation de ces fluctuations de densité. Et donc, à nouveau, hein, masse de jeans, densité, ça veut dire des masses différentes. Vous avez un spectre de masse qui va être lié à ça. Donc, induction d'un effondrement gravitationnel ou de plusieurs effondrements gravitationnels, en fait, locaux, un par étoile, essentiellement. Donc, représenté une fois de plus en rouge. Et puis, vous voyez, à un moment, là, vous commencez à avoir une sorte d'expansion. Eh bien, cette expansion, elle est produite par la rétroaction des étoiles qu'on peut induire dans le modèle sous-mailles, puisque, comme on l'a rappelé au début de l'exposé, les étoiles rayonnent proportionnellement au cube de la masse, et donc les grosses étoiles, eh bien, disons, émettent une radiation importante, et cette radiation, elle va venir ioniser le gaz et elle va chasser, en fait, elle va chasser le reste, je vais essayer de le remontrer ici, de gaz, le nuage, elle va le disperser, non, il ne veut pas, toc. Elle va disperser ce gaz et elle va arrêter au bout d'un moment le processus de formation d'étoiles parce que le gaz va être complètement ionisé, il va être chassé du nuage parent. Et donc les étoiles massives portent en elles une forme d'autorégulation du processus de formation d'étoiles lui-même. Parce qu'une fois que vous avez formé une étoile comme ça, péchue, là, on voit l'expansion qui est là. Hein. Et vous voyez cette barre de gaz là, qui est en train d'être poussée et d'être complètement détruite en fait, hein, par le rayonnement ionisant. On voit souvent parler des pilars là, de la création. Là, il y en a un ici. Ils sont sans doute liés à ce gaz ionisant. Et donc, les étoiles massives finissent par disperser ce nuage. Et vous voyez qu'ici, vous gardez un cluster, ici vous avez un petit cluster qui va rester, ici vous avez au contraire des étoiles qui ne sont pas suffisamment liées et qui vont finir par, disons, rejoindre le grand bain galactique et se promener comme la plupart des étoiles dans notre galaxie. Et donc cette capacité à nouveau, hein, de rayonner comme le cube de la masse, elle contribue à cette espèce de... à réguler le taux de formation d'étoiles dans une galaxie, qui par ailleurs est quelque chose, une autre quantité fondamentale de l'univers, hein, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui est également importante et encore assez mal comprise, qui est combien en forme d'étoiles par unité de temps dans une galaxie et au cours de l'histoire de l'univers. Et ces processus de rétroaction, donc à nouveau liés aux détails de la physique stellaire et à la distribution de masse, c'est-à-dire combien on a d'étoiles massives qui vont être capables de faire ça, est quelque chose qui va disons, se boucler sur lui-même et réguler le taux de formation d'étoiles. Donc, maintenant, si je regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qui peut expliquer ici ce pic-là, le fait cette masse caractéristique. Et pour ça, en fait, alors, ce que je vous dis ici, c'est quelque chose qui est encore, qui n'est pas forcément consensuel. C'est-à-dire que c'est une proposition qui a été faite dans la littérature il y a 5-6 ans. Je ne dis pas que c'est quelque chose, c'est pas forcément la vérité aboutie qui fera référence pendant de longues années. On est encore sur un champ du savoir mouvant. Mais donc, essentiellement, quand on regarde l'histoire d'un effondrement gravitationnel. Donc ici, vous avez la densité, et ici, vous avez la... alors, pas exactement la température... Si, là, c'est la température qui est reportée ici. Donc, lorsque l'effondrement gravitationnel se produit, dans une première phase, vous voyez que la température reste constante. Essentiellement, le gaz est isotherme. Arrive un moment où, comme vous le voyez, la température se met à augmenter. Elle augmente pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque le gaz est suffisamment dense, les photons qui sont émis par chaque particule de gaz sont immédiatement piégés. C'est notamment la poussière qui devient extrêmement opaque et qui fait qu'à chaque fois que les photons sont émis, hop, ils sont piégés. Ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à sortir. Et s'ils n'arrivent plus à sortir, ça veut dire que le gaz il devient essentiellement adiabatique. Or, comme on va le voir dans un instant, un gaz adiabatique... Eh bien, c'est effondrement gravitationnel contre pression thermique. Et on en a un exemple aujourd'hui, fort heureusement, dans le Soleil. On sait qu'il gagne. C'est la pression thermique, parce qu'on a un Soleil. Si ce n'était pas la pression thermique qui gagnait, on aurait un trou noir ou je ne sais pas quoi, mais on ne serait sans doute pas là pour en parler. Donc, la pression thermique d'un gaz adiabatique est capable d'arrêter l'effondrement gravitationnel. Elle gagne sur la gravité. Et donc, c'est sans doute ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'au moment où le gaz devient réellement optiquement épais, les photons ne parviennent plus à s'échapper. Et pour un moment, l'effondrement s'arrête. L'effondrement est stoppé. Et ce faisant, eh bien, la matière elle continue de tomber, elle ne sait pas qu'il y a un truc qui s'est arrêté. Donc elle continue d'accumuler de la masse. Alors on peut, juste par rapport à ce que je disais, si vous faites un tout petit rapport ici, l'énergie thermique sur l'énergie gravitationnelle, la pression, l'énergie thermique, l'énergie gravitationnelle, vous pouvez voir que c'est proportionnel au rayon de nuage à la puissance 4-3 gamma, gamma étant l'indice adiabatique. Et donc vous avez un indice ici magique, enfin magique, important, qui est gamma égale 4 tiers. Si gamma est plus petit que 4 tiers, essentiellement, la pression thermique ne gagnera jamais sur la gravité, vous allez vous effondrer et vous fragmenter de plus en plus. Si jamais gamma est supérieur à 4 tiers, ce qui se passe dans le Soleil, eh bien, la pression thermique l'emporte et conduit à une situation hydrostatique. Donc, pour revenir à mon histoire, donc la matière, la masse s'accumule autour de ce cœur hydrostatique qui vient de se former parce qu'il n'arrive plus à perdre de l'énergie. Un peu comme la matière noire, d'ailleurs, tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous disais, la matière noire reste bloquée à grande échelle dans la galaxie parce qu'elle ne perd pas d'énergie, c'est un peu pareil ici. Elle reste bloquée là, et jusqu'à ce qu'elle finisse par y arriver. Et puis, arrive un moment où l'hydrogène moléculaire commence à se dissocier. Or, l'hydrogène moléculaire, en fait, la liaison qui le lie, est une liaison très énergétique, donc 4.4 électronvolts ou 4.5 électronvolts pour ceux qui ont l'habitude des électronvolts, ce qui correspond en fait à une température effective assez élevée, de l'ordre de 10 000 K, qui est supérieure à la température du milieu au moment où ça se produit. Et donc ça représente en fait une pompe à énergie extrêmement efficace, qui permet de refroidir le milieu et de jouer le rôle que jouaient avant les photons qui étaient évacués par le système. Donc vous avez une nouvelle pompe à énergie et qui permet au système en fait d'évacuer son énergie gravitationnelle et qui permet à l'effondrement gravitationnel de reprendre en fait et de se contracter jusqu'à ce que on forme l'étoile et jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau à un système d'opacité, mais cette fois-ci qui vient de l'opacité des électrons et des noyaux ionisés. Voilà. Et donc la proposition ici, c'est que ce pic que vous voyez qui a été formé dans cette distribution de alors je n'ose pas dire d'étoiles, de ce qu'on appelle les particules fines, nos modèles Soumaille. Pas oublier quand même qu'il y a des grosses approximations algorithmiques derrière, mais enfin, quand même, on espère. Donc ce pic, allez, on va dire d'étoiles, est sans doute lié à la masse de ce cœur hydrostatique qui se forme. Et dans l'estimation numérique, on a le privilège de pouvoir tourner les boutons, donc on peut changer la physique, même si ce n'est pas forcément réaliste par rapport à la nature, c'est réaliste, enfin disons c'est utile, dans une perspective de compréhension de ce qui se passe dans la simulation. Donc on peut changer la physique et dire, si je change ça, il devrait se passer ça. Donc c'est typiquement le cas ici, en changeant cette physique, on peut faire varier la masse de ce cœur hydrostatique. Et on voit que ce cœur hydrostatique, quand on varie la masse de cœur hydrostatique, la masse du pic ici, de la fonction initiale de masse, change également. On voit que c'est plus ou moins proportionnel l'un à l'autre. Voilà, donc ça c'est un argument, l'argument peut-être le plus convaincant à l'heure actuelle, qui semble indiquer que l'origine du pic de la fonction initiale de masse, il est à chercher à nouveau dans la microphysique, et plus précisément dans les propriétés optiques, en tout cas l'opacité de la poussière interstellaire, qui va bloquer le rayonnement et qui va rendre pour un temps le système qui est en train de s'effondrer hydrostatique. Et il y a une masse associée à ça qui est de l'ordre de 3·10−2 masse solaire. Et donc on a une sorte de proportionnalité entre cette masse et la masse du pic de l'IMF. Je répète, ce n'est pas du savoir consolidé, c'est vraiment le savoir qui est en train d'émerger. Et donc, rendez-vous dans 10 ans ou 20 ans pour savoir s'il y a de nouvelles théories qui ont émergé ou bien si cette théorie était confirmée. Donc, le deuxième point sur lequel je voulais m'apesantir, c'est ce régime autosimilaire, puisque j'ai séparé cette fonction initiale de masse en différents points. Donc, vous voyez, dans ces simulations, on voit effectivement le régime autosimilaire qui est ici. Donc la façon la plus simple. Alors, il existe des théories beaucoup plus mathématiquement, peut-être plus complexes, aussi plus complètes, évidemment. Mais essentiellement, si vous dites simplement que le nombre d'objets que vous considérez est proportionnel au volume, hein, c'est quand même pas une grosse hypothèse. Bien, vous pouvez déduire cette petite formule. Vous pouvez déduire un spectre de masse qui est relié à la taille de l'objet. Et si maintenant vous faites appel à l'équilibre viriel, c'est-à-dire dites en substance que les régions du fluide qui s'effondrent, qui sont sélectionnées par la gravité, comme on voit tout à l'heure dans la simulation, hein, il y a plein de centres qui s'effondraient là, qui formaient des boules rouges. Chaque centre, c'est une sorte d'équilibre entre la gravité et la turbulence locale. Et c'est ça qui va définir plus ou moins la taille. Donc si vous faites ça, vous pouvez relier cette gravité avec la dispersion locale de la turbulence. Et donc ceci vous donne un lien entre la masse et le rayon. Et si vous utilisez cette relation ici, eh bien, vous trouvez quelque chose comme une loi de puissance avec à peu près, j'insiste sur le à peu près, la bonne valeur pour le spectre. Donc voilà, l'idée sous-jacente, on en entre très vite, c'est ça, hein, c'est que vous avez des fluctuations de densité qui sont induites par la turbulence ou plus généralement par la gravoturbulence, c'est-à-dire c'est une dynamique qui est dictée à la fois par la gravité et par la turbulence qui va générer des fluctuations, et chaque fluctuation est sujette à une sorte de petit équilibre local entre la gravité et la turbulence. Et c'est l'ensemble, c'est la statistique de ces fluctuations qui conduit à ce spectre de masse autosimilaire des étoiles. À nouveau, le détail, les grandes lignes sont sans doute, je serais surpris qu'elles soient fausses, après on n'est jamais à l'abri de rien. Le détail, sans doute, doit résister à l'épreuve du temps, et donc rendez-vous dans 20 ans pour savoir ce qu'il en est. Bien, alors quelques questions qui perdurent. L'idée des simulations numériques, et c'est aussi le message de cette fonction initiale de masse, c'est qu'on peut explorer des conditions initiales, une grande diversité de conditions initiales, et comme je vous l'ai montré, les observations semblent indiquer assez peu de variations. Donc on peut faire plusieurs simulations hein, pour échantillonner un grand nombre de conditions initiales et voir dans quelle mesure le spectre de masse est assez robuste à ces conditions initiales. Et donc là, on a fait varier, hein, on a quatre simulations, où on a changé les paramètres de densité plus ou moins à peu près d'un facteur 10 à chaque fois, donc typiquement entre celle-ci et celle-ci, on a quand même un facteur 1000. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour ces trois-là, c'est pas trop mal. Il y a des petites variations, ici il y en a quasiment pas, il y en a un petit peu plus, mais enfin globalement, c'est à peu près pas mal. Pour celle-ci, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez qu'au contraire, vous avez un truc complètement plat, tout plat, qui n'a rien à voir avec ce qui est observé. Il se trouve que ces conditions-là, elles ne sont pas si mal, en fait, pour le gaz interstellaire. Donc, ça semblerait vouloir dire qu'ici, on est plutôt bien, mais là, on n'est pas complètement bien. Donc, il manque, c'est pas toute l'histoire. Et une des pistes, ou un des ingrédients peut-être hein, manquants, est à nouveau lié aux étoiles elles-mêmes. En particulier, lorsqu'une étoile se forme, je crois que vous avez un exposé de Sylvie Cabri sur la question, vous avez émission de jets protostellaires qui sont liés, à des processus magnétocentrifuges. Hein, le fait que vous avez des lignes de champ qui tournent comme ça, hein, ça fait comme si vous faisiez assez rapidement tourner un arceau, par exemple, de métal, hein, et vous aurez une masse-lotte là, qui partirait. Du fait de la force centrifuge, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, on observe ces jets protostellaires et en fait, ils sont capables d'injecter de l'énergie de façon très efficace dans le milieu. C'est quand même des jets qui vont à 200 km par seconde pour les plus rapides d'entre eux. Et donc ça, localement, ça perturbe considérablement le nuage. Et les simulations numériques, à nouveau, qui ont été réalisées, montrent que typiquement, les jets sont capables de transformer quelque chose d'assez plat tel que ce que je viens de vous montrer, en quelque chose qui est beaucoup plus structuré, avec un pic et à nouveau un spectre de puissance. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on injecte localement de l'énergie qui manquait sinon. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui, vous voyez, 2021, qui n'est pas encore du savoir consolidé, donc ce sont des idées en cours de développement. Voilà. Je voulais juste finir là-dessus, parce que ça fait, au niveau observation, ça fait partie des choses vraiment intéressantes qui émergent. On a découvert depuis pas mal d'années maintenant enfin, des free floating planets, c'est-à-dire des objets qui sont plus petits que les naines brunes, donc qui n'allument pas de deutérium, enfin, qui ne brûlent pas de deutérium, mais disons qu'ils sont dans la continuité de masse des naines brunes et des étoiles de faible masse. Ici, et on a été capable récemment d'en faire un relevé complet dans cet amas ici, Upper Scorpus. Donc vous avez en rouge la distribution des free floating planets, en bleu les naines brunes, en jaune les étoiles. Donc, vous voyez que tout ça c'est assez mélangé. Et donc le spectre de masse de ces objets, donc vous voyez ici, hein, vous avez la masse ici et le nombre de ces objets en fonction de la masse. Donc ça c'est une IMF standard et vous voyez que ça continue. La distribution de masse hein, continue. C'est pas tellement surprenant, c'est-à-dire que finalement la capacité des petites étoiles à brûler de l'hydrogène ou bien du deutérium, ça n'influe pas tellement sur le mécanisme de formation. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ils ont comparé avec des modèles tels que ceux que je vous ai décrits. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, ça marche pas trop mal, mais là, par contre, ça marche pas bien du tout. Vous voyez que les petits objets, les free floating planets, elles sont pas du tout reproduites par ces modèles. Donc, il semble que le détail de ce qui se passe à relativement petite échelle, on serait sur des échelles de l'ordre de quelques unités astronomiques, reste assez mal compris. Vous avez des modèles ici d'explications possibles, basés sur la fragmentation de disques. Hein. Vous avez ici des disques qui se forment au cours de l'effondrement gravitationnel hein, que je mentionnais autour de l'étoile. Et dans certaines conditions, pas toujours, ici c'est pas le cas, mais dans certaines conditions, ces disques peuvent se fragmenter et former des petits objets. Ici, vous avez le nombre d'objets formés dans la simulation en fonction du temps. Vous voyez que tout ça, ça va, ça vient, etc. Et vous avez peut-être un certain nombre de ces petits objets là, formés dans le disque d'accrétion initial qui sont éjectés et qui sont détachés, disons, de l'étoile parent, et qui vont venir ensuite se balader dans la galaxie. Peut-être. Pour l'instant, on est à nouveau hein, dans quelque chose qui n'est pas encore totalement bien compris. Mais voilà, il y a cette population d'objets. Alors, parmi les questions intéressantes, c'est est-ce que ça va encore continuer ? Vous voyez que là, on est à 10 masses de Jupiter. Et donc, si on continue trop, on va finir par arriver à la masse de Jupiter. Et donc, on a peut-être plusieurs mécanismes, je ne sais pas, pour former des objets tels que Jupiter. C'est ouvert. Pour l'instant, on n'a pas de... ça fait partie des questions intéressantes. Et en fait, on est en train de toucher vraiment à la formation presque des planètes ici. Et un autre grand message des études de formation d'étoiles récemment, c'est que la formation des systèmes planétaires et des étoiles sont très concomitantes, aussi en temps. C'est-à-dire que sans doute Jupiter s'est formé peut-être un million d'années après la formation du système solaire, c'était déjà en place. Donc c'est vraiment le même processus, formation d'étoiles et de planètes, et ici on est en train de le toucher du doigt. Alors juste pour terminer, je voulais vous parler un tout petit peu des premières étoiles, parce que mon exposé essentiellement concernait les étoiles de type de celles qui se forment actuellement dans la galaxie. Et les étoiles primordiales ont ceci de particulier, qu'elles se forment dans un gaz pristine qui n'a pas encore été enrichi en éléments lourds. Et comme je vous l'ai dit, les éléments lourds sont responsables du refroidissement du gaz. Et donc, avant que les premières étoiles se forment, eh ben, il n'y a pas d'éléments lourds. Et donc, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium, un petit peu de lithium, qui permet de refroidir, et ça refroidit très très mal. Et donc, ça veut dire que le gaz est très chaud. De fait, il est plutôt à 1000 K, alors que le gaz aujourd'hui est plutôt à 10 K. Donc, vous avez un facteur 100. Et la masse de Jean, si vous vous souvenez, elle dépend hein, de la température, absence 3,5. Donc, ça veut dire qu'on s'attendrait à ce que les premières étoiles soient sans doute beaucoup plus grosses que celles d'aujourd'hui, avec des propriétés assez différentes. Et donc, ici, vous avez à nouveau des simulations numériques. Donc chaque graphe ici correspond à ce qu'on appelle une métallicité, c'est-à-dire une quantité d'éléments lourds. Donc ici, vous avez donc 10-1, c'est quasiment ce que vous trouvez dans les nuages de Magellan. et 10-6, vous avez quasiment rien. Et vous voyez le spectre de masse qui se forme dans des simulations numériques avec ces différentes métallicités est complètement différent. À nouveau, pourquoi ? Parce que la capacité de perte d'énergie de ces différents systèmes est complètement différente parce qu'il est dicté par l'abondance des éléments lourds. Donc c'est un autre point important de mon exposé, c'est qu'il y a cette sorte d'auto... de boucles où en formant des étoiles vous formez l'univers s'auto donne les capacités de se structurer davantage en permettant à l'énergie de se perdre et d'être rayonnée. Donc ici vous en avez la manifestation, hein, quand vous avez très peu d'éléments lourds, vous avez quelques grosses étoiles ici et quasiment rien d'autre, et dès que vous avez assez d'éléments lourds vous commencez à former toute cette diversité. Voilà, et donc sur ce, je conclurai simplement ceci et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.